Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour au sommaire de ce journal. Le secrétaire général des Nations Unies préoccupé par l'escalade et de la violence dans la province du Sud-Kivu, à l'est de la RDC. C'est ce qui rapporte son porte-parole dans une déclaration parvenue hier jeudi à Radio Okapi. En Ituri, un incendie a fait un mort et ravagé plus de 50 maisons de commerce au centre commercial de Mambasa, à 165 km au sud-ouest de Bunia. Toutes les marchandises ont été réduites en cendres. Ravaneli Ntumba, journaliste fact-checker au sein du média Balobaki Check, est notre invité. En séjour à Kindu, elle forme les journalistes sur le fact-checking, la sécurité numérique et la sécurité physique. Le secrétaire général des Nations Unies préoccupé par l'escalade de la violence dans la province du Sud-Kivu à l'est de la RDC. C'est ce qui rapporte son porte-parole dans une déclaration parvenue hier jeudi à Radio Okapi. Antonio Guterres déplore les conséquences humanitaires de cette situation, y compris les déplacements de plus de 200 000 personnes depuis le 2 décembre dernier. Ainsi, il condamne la nouvelle offensive lancée par la rébellion de l'AFC M23 dans plusieurs localités de la province du Sud-Kivu, notamment à Kamanyola, Luvungi, Katogota et Ouvira, qui a fait des victimes parmi les civils. Les points avec Grâce Hamzati Massanzi.
Dans cette déclaration, le secrétaire général appelle à une cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités, conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Il souligne que cette escalade risque de compromettre gravement les efforts visant à parvenir à une solution durable à la crise et augmente le risque d'un embrasement régional plus large. Il exhorte les partis à respecter les engagements pris dans le cadre des accords de Washington pour la paix et la prospérité, signés le 4 décembre, et à respecter pleinement le cadre de Doha pour un accord de paix global du 15 novembre. Antonio Guterres fait savoir que l'Organisation des Nations Unies est pleinement mobilisée pour travailler avec ses partenaires afin d'assurer une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Il réaffirme qu'il est prêt à continuer à appuyer les efforts diplomatiques en cours visant à rétablir la paix dans l'est de la RDC et dans la région. Ce, conformément à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région.
En Ituri, les FARDC, les casques bleus de la MONUSCO et l'armée ougandaise UPDF ont lancé depuis jeudi des patrouilles mixtes pour contrer les menaces des groupes armés dans plusieurs localités du territoire de Djougou. Objectif, rassurer la population et favoriser le retour des milliers d'habitants regroupés autour du camp militaire ougandais de Boulé. Ces mesures ont été arrêtées lors d'une réunion de sécurité tenue ces deux derniers jours par le commandant du secteur opérationnel de FARDC en mission dans la région. Les leaders locaux ont été appelés à sensibiliser la population à se désengager des groupes armés pour instaurer une paix durable. Des détails avec Isaac Remoyopé.
Depuis une semaine, un climat de méfiance s'est installé entre les FARDC et la population dans plusieurs agglomérations, notamment à Boulé, après les opérations de traque menées contre les miliciens du groupe armé Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga. Craignant de nouvelles attaques et dénonçant certaines tracasseries, de nombreux habitants s'étaient réfugiés autour du camp de l'armée ougandaise. Boutiques et marchés étaient restés fermés. Le commandant du secteur opérationnel des FARDC en Ituri s'est rendu sur place et a réuni mardi et mercredi un conseil de sécurité élargie, une première avec la participation conjointe des FARDC, de la MONUSCO et des UPDF. Les trois forces ont résolu d'organiser des patrouilles mixtes pour sécuriser les civils. Ces opérations sont en cours depuis jeudi, notamment à Boulé et Fataki. La population est appelée à regagner ses domiciles, à reprendre ses activités et à se désengager des groupes armés dont certains éléments se cacheraient parmi les habitants. Les leaders locaux ont reçu instruction de sensibiliser la population à collaborer avec les forces mixtes. Un rassemblement populaire a également été tenu pour informer les habitants et les déplacer des mesures arrêtées. Selon les autorités, un retour au calme s'observe désormais dans plusieurs localités de Djougou. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le conseil communal de la jeunesse tire la sonnette d'alarme sur la multiplication des cas de criminalité enregistrés ces derniers temps dans la ville de Goma. En l'espace d'une semaine, le meurtre, enlèvement et autres cambriolages sont signalés dans plusieurs quartiers. Les incidents les plus récents concernent deux jeunes tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier Mabanga, en commune de Karisimbi. Il y a également la mort tragique d'un écolier enlevé puis exécuté malgré le paiement de la rançon exigée par ses ravisseurs. Le conseil communal des jeunes de Karisimbi condamne fermement ces actes criminels qui surviennent à l'approche des festivités de fin d'année. Plus de détails avec Jean Gandou.
Ces deux jeunes ont été assassinés vers 23 heures dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier Mabanga Sud, selon plusieurs sources. Les victimes auraient été exécutées par des hommes armés alors qu'elles rentraient d'un bistrot où elles suivaient un match de football. L'incident est survenu la même nuit où Magloire Paloukou, élément de l'FCM-23, a été abattu à l'entrée de sa résidence dans un autre quartier sud de la ville. Le conseil communal des jeunes souligne également le meurtre d'un élève du complexe scolaire du 8 mars, enlevé en début de semaine et activement recherché par sa famille. Son corps est trouvé décapité. Jeudi à Goma, témoigne de la cruauté des ravisseurs malgré les versements de la rançon exigée. À cela s'ajoutent les cambriolages perpétrés dans de nombreux quartiers au cours de cette même semaine, accentuant un climat de peur dans une ville qui avait connu une relative accalmie ces deux derniers mois. Le conseil communal de jeunes exprime sa profonde inquiétude face à cette recrudescence des actes criminels, particulièrement en cette période précédant le fête de fin d'année.
En Ituri, un incendie a fait un mort et ravagé plus de 50 maisons de commerce au centre commercial de Mambasa, à 165 km au sud-ouest de Bunia. Toutes les marchandises ont été réduites en cendres. Les victimes qui ont tout perdu dénoncent l'absence totale des moyens de lutte contre les incendies dans ces chefs-lieux du territoire, à l'origine, selon elles, de l'ampleur des dégâts. Depuis ce matin, les activités tournent au ralenti à Mambasa Centre. Des détails avec Isaac Remouyopi.
L'origine du feu reste inconnue. L'incendie est parti d'un hôtel vers 1h du matin avant de se propager à d'autres bâtiments situés dans la même concession, puis aux boutiques et dépôts en bois du centre commercial de Mambasa. Plus de 2 heures se sont écoulées avant que les premières alertes ne circulent largement, alors que les dégâts étaient déjà considérables. Selon des sources locales, au moins 50 boutiques, restaurants et dépôts de vivres, maisons d'habitation ont été entièrement calcinées. La plupart des commerçants venaient tout juste de s'approprier visionné pour la période des festivités, poissons salés, haricots, habits, chaussures. Tous affirment avoir tout perdu faute de véhicules anti-incendie et d'un dispositif de protection adéquat. La population venue en nombre est restée impuissante face à l'ampleur des flammes. Ce n'est qu'à l'aube qu'un engin utilisé pour la réhabilitation des routes a été déployé pour démolir certaines structures et empêcher la propagation du feu vers les marchés appelés Zalanambango. Ce vendredi matin, Mambasa s'est réveillé sous les chocs et l'activité économique est quasiment paralysée. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, le rôle de la jeunesse face aux enjeux sécuritaires actuels. Ce thème a été au centre d'une journée d'échange hier jeudi à Beni. L'activité a réuni une centaine de leaders des organisations des jeunes de la province du Nord Kivu. Objectif, susciter un éveil de conscience patriotique et mobiliser les jeunes à s'engager davantage dans la recherche de la paix en RDC. Marc Marofimbo nous en dit plus.
L'activité a été initiée par la Coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la République démocratique du Congo, sous bureau du Grand Nord. Elle vise à alerter les jeunes leaders de la province du Nord Kivu sur la dégradation de la situation sécuritaire actuelle dans la partie est du pays, mais aussi obtenir leur implication dans la mise en œuvre des accords de paix de Doha et de Washington, ainsi que les processus de Luanda, Nairobi. Benjamin Simoni, participant à cette activité, trouve utile aux jeunes d'adhérer au processus de paix pour la pacification de la région.
La paix est une affaire de tous. Pour un jeune responsable, cette participation dans le processus de paix peut être le partage des aspirations concrètes de paix vis-à-vis des conflits armés tels que vécus sur les terrains. Cet appel est lancé par rapport, n'est-ce pas, à la pacification et dans le processus de faire taire les armes ici sur les terrains.
Parmi les recommandations issues de cette journée de réflexion figure entre autres l'octroi des moyens aux structures qui encadrent les jeunes afin de lancer des campagnes de sensibilisation à la prise de conscience patriotique face à la situation actuelle du pays, mais aussi les rapprochements des jeunes des décideurs, afin que ces derniers soient plus réceptifs aux propositions des jeunes en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la région. L'activité a bénéficié de l'appui de la section des affaires politiques de la MONUSCO et de la division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique du Nord Kivu. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
À qui Kisangani, le chef de division provinciale de la Tchopo, de la météorologie et des détections par satellite, plaide pour la prise en charge de son personnel par le gouvernement, composé de 78 agents pour l'ensemble de la province de la Tchopo. Seuls 22 d'entre eux touchent leur salaire. Les 56 autres ne sont pas toujours mécanisés depuis plusieurs années. Le chef de division provinciale de la météo l'a révélé hier jeudi à Kisangani au cours d'un point de presse. Emmanuel Bongongo demande donc au ministre des Transports de décanter cette situation, car, dit-il, un projet y afférent se trouve déjà sur son bureau. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkoli.
Avec ces projets-là, si aujourd'hui le gouvernement congolais valide ça, le personnel de Metelsat, le personnel technique, technicien ou administratif doit être bien pour réaliser les travaux. Nous sommes en train de demander au-dessus de l'autorité de l'État congolais de prendre en charge leurs services, de prendre en charge les agents qui travaillent au sein de la Metelsat. Et de deux, nous demandons aussi aux décideurs, surtout à notre ministre de tutelle, de faire mettre en place l'arrêté qui se trouve dans leur table de conflit des compétences à travers Metelsat. Le ministre avait appelé les autorités pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et il a eu vraiment l'information par rapport à ça. Et d'ailleurs, il a montré les projets qu'il est en train de mettre en place, les projets d'arrêté ministériel qui va nous séparer, qui va donner le droit à chacun au niveau des secteurs de l'aviation civile. Il s'est fait malheureusement jusqu'à présent. Nous sommes en train d'attendre. Nous demandons à notre tutelle, en tout cas, de regarder le cas de Metelsat, de mettre en place l'arrêté que nous sommes en train d'attendre auprès de lui.
La République démocratique du Congo multiplie les initiatives pour faire du commerce transfrontalier un levier important du développement de son économie. Pour y parvenir, le ministère du Commerce extérieur collabore avec plusieurs partenaires afin de sensibiliser les différents acteurs de ce secteur aux instruments qui les régulent dans le but d'améliorer le climat des affaires en RDC. Des détails avec Ronéline Tibonera Idi Amin.
Parmi les instruments, le ministre du Commerce extérieur met en avant le régime du commerce simplifié RECOS. Selon Julien Paluku, l'idéal pour le gouvernement congolais est de faire du Congo une terre propice aux affaires à l'image d'autres pays membres du COMESA.
Quand quelqu'un veut venir en RDC, il pose des questions sur le climat des affaires. Est-ce que là-bas, pour avoir un document, il faut combien de temps? On dit qu'il faut un mois. Entre-temps, dans un autre pays voisin, il faut combien? On dit qu'il faut 24 heures. Quelle est l'échelle qu'il opère? Il va là où il faut 24 heures.
Du côté des Trademark Africa, une structure d'appui aux femmes exerçant les petits commerces transfrontaliers, la mise en place du RECOS constitue une opportunité unique pour améliorer les conditions de travail des femmes et des jeunes. Prisca Kalombola, responsable de programme.
Notre objectif est d'aider à créer des frontières qui fonctionnent mieux, des frontières où les contrôles sont efficaces, mais aussi respectueux, où les files d'attente se réduisent et où chacun sait clairement ce qu'il doit faire.
Quant aux petits commerçants, ils plaident auprès du gouvernement pour une accélération de la mise en œuvre effective du RECOS. Djamba Michel.
De façon que cela va aider beaucoup les petits commerçants transfrontaliers dans le cadre de chaîne de valeur, dans le cadre de la compétitivité dans la sous-région, même au niveau local. C'est un atout très important.
Le régime commercial simplifié vise à lutter contre la fraude, à formaliser les activités informelles et à renforcer l'intégration économique régionale entre la RDC et ses voisins.
Renforcer l'autonomisation économique des femmes, c'est l'objectif de l'atelier organisé hier jeudi à Kinshasa. Cette activité a rassemblé plusieurs acteurs engagés dans la promotion du genre. Ce forum a mis un accent particulier sur l'employabilité des femmes et l'accompagnement des entrepreneurs, avec pour finalité de faciliter leur accès aux ressources économiques et de promouvoir leur indépendance financière. Des précisions avec vous, Enoch Katumbi.
Dans son mot d'ouverture, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a rappelé la nécessité d'intégrer la dimension genre à chaque étape des projets de développement pour garantir un impact réel sur la vie des femmes.
Le partenariat doit désormais intégrer de manière systématique la dimension genre dans toutes les phases des projets. C'est à cette condition que nous transformerons les acquis en progrès irréversibles.
Plus qu'un simple échange, cette rencontre s'est transformée en véritable plaidoyer en faveur de l'autonomisation économique des femmes dans un contexte marqué par de fortes vulnérabilités, notamment dans l'est du pays. La coordinatrice de la structure Star RDC, partenaire technique du programme, Brigitte Kapinga, est revenue sur les avancées déjà réalisées dans les zones d'intervention.
Nous avons pu acheter 25 800 kits PEP et 8 297 kits PEP ont été distribuées. Nous avons pu assister 4879 survivantes de VBG et tous ces 4879 ont bénéficié des appuis psychosociaux.
L'objectif global du projet reste clair: réduire durablement la pauvreté des femmes tout en renforçant leur résilience. L'atelier a également servi de cadre pour sensibiliser contre les cyberviolences qui touchent de nombreuses femmes et jeunes filles à travers le pays.
L'invité.
Il s'agit de Ravanelli Ntumba, journaliste fact-checker au sein du média Balobaki Check, qui est notre invité. En séjour à Kindu, elle forme les journalistes sur le fact-checking, la sécurité numérique et la sécurité physique. Cette formation vise à outiller les professionnels des médias de la province du Maniema des notions pouvant leur permettre de lutter contre les fausses informations ainsi que les discours de haine. Ravanelli Ntumba s'entretient avec Florence Kizalunga.
Ravanelli Ntumba, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Balobaki Check dans la province d'Imanema et vous réunissez les journalistes. Pourquoi?
Parce que nous avons compris que le journaliste, celui le porteur de message, celui qui donne la bonne information au public, et la mission justement de Balobaki, c'est d'aller sur tout les provinces, de former les journalistes dans la lutte contre les fake news et la lutte contre les discours de haine, comme ici spécialement pour le Maniema. Nous sommes là aussi pour outiller le journaliste sur la sécurité numérique et la sécurité physique. C'est vrai, après le Nord et le Sud Kivu, nous avons porté aussi cet engagement de venir dans le Maniema, parce que vous êtes aussi dans l'Est de la République, et c'est comme ça que nous nous sommes dit que nous devrions aussi venir ici former des journalistes, des confrères qui se trouvent ici, afin qu'ils soient outillés pour mieux faire leur travail.
Dans toutes ces provinces où vous encadrez, vous renforcez les capacités des journalistes, qu'est-ce que vous visez?
On vise juste que tout journaliste prenne un peu du recul, parce que nous remarquons au fait, dans l'exercice de ce travail, nous courons beaucoup derrière les scoops. Et nous remarquons aussi que certains journalistes commencent à propager des fausses informations. Alors là, c'est une faute grave. Comme Baloba qui est là, comme un média communautaire qui peut justement accompagner ces journalistes à être très bien outillés. C'est comme ça que nous visons que chaque journaliste prenne du recul avant de partager une information, avant de publier une information, que chacun de nous ait le réflexe de base qu'il faudrait avoir avant de partager une information. C'est pas qu'on veut faire de tout journaliste fact-checker, mais au moins donner les notions pour que chacun de nous, comme je le disais, prenne du recul avant de partager une information, parce que la mauvaise information peut tuer. Ça, je l'ai toujours dit.
Selon vous, quel est le risque pour la sécurité numérique pour un journaliste?
Alors, de nos jours, vous savez qu'on a quitté du journalisme classique, où il y avait le papier, le stylo. On est en train de migrer au numérique. Le numérique veut dire nos smartphones, nos iPhones, nos ordinateurs, nos tablettes. Le journaliste, au fait, a tous ces données dans ces outils-là. Et si il ne prend pas soin à ce matériel qui lui permet justement de stocker ces données, ces informations, il va être piraté par exemple. Et ça sera en mal de la rédaction, non seulement du journalisme, mais de la rédaction tout entière. C'est comme ça qu'on se dit qu'un journaliste doit savoir sécuriser les données qu'il récolte, parce qu'on n'est plus à l'ère, à l'époque où on faisait du stylo et le papier. Maintenant, c'est le numérique, c'est le téléphone. On doit sécuriser nos données personnelles, surtout dans un contexte où la RDC est en train de traverser des tensions. On doit sécuriser nos données personnelles sur les réseaux sociaux, sécuriser nos conversations peut-être avec nos sources. Donc, c'est comme ça qu'on se dit que la sécurité numérique, qui en va aussi à la sécurité physique, est très important pour un journaliste.
Alors, cela a quoi comme conséquence dans la communauté?
C'est vraiment évident. Parce que si le journaliste ne sécurise pas ses données, que ce soit personnelles ou les données en général avec sa rédaction, cela peut nuire à la communauté. Dans quelle mesure? Dans la mesure où on ne saura pas donner la bonne information dans la communauté. On n'aura pas des bonnes informations qui vont circuler dans la communauté. Et il y aura justement des fake news. Il y aura des fake news qui seront propagées. Il y aura, on l'a dit ici, la mésinformation, la malinformation, la désinformation, tout simplement parce que le journaliste n'a pas eu le soin de sécuriser ses propres données pour justement donner la bonne information à la population.
Dans toutes ces formations, qui vous finance?
Alors, dans le fact-checking, on reste vraiment ouvert. Pour cette formation, nous sommes financés par l'ambassade du Canada. Nous avons commencé à Kolwezi et voilà, nous finissons ici dans le Maniema à Kindu.
Mais l'idée n'est pas d'aller plus loin?
Oui, si les possibilités nous permettent d'aller plus loin, nous allons poursuivre notre formation dans toute l'étendue de la RDC.
Ravanelli Ntumba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, Ravanelli Ntumba, journaliste fact-checker au sein du média Baloba Kitchek, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.